Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre à terre, dynamique et passionnée. Disponible et transparent, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 98 du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir Marco D'Amico pour cet épisode. Marco, ça va bien?
Très bien, toi?
Super bien, Marco. On fait un épisode type un peu plus express pour nous préparer aux quatre nations qui débutera mercredi le 12 février à Montréal dans un match entre le Canada et la Suède. Il y aura ensuite quatre matchs de cette ronde préliminaire à Montréal. Ensuite, deux parties à Boston et ensuite, les deux meilleures équipes s'affronteront le jeudi 20 février au TD Garden pour ce premier championnat des quatre nations. Je voudrais savoir quel est ton niveau d'excitation pour ce tournoi-là.
Écoute, c'est toujours le fun de pouvoir voir les meilleurs joueurs jouer ensemble, que ce soit, tu sais, on regarde la Suède, les États-Unis, le Canada, la Finlande, c'est intéressant. C'est un avant-goût à qu'est-ce que les partisans devraient avoir à chaque deux, sinon quatre ans, à mon avis. Écoute, on est en 2025. Le fait que les partisans doivent se battre pour avoir du best on best, je trouve ça un peu...
Ça fait longtemps triste. Qu'on n'en a pas eu, là.
Ouais, c'est une des choses qui fait mal au sport du hockey, selon moi, si tu compares, mettons, au soccer. Où ce que tu as la Coupe du Monde aux quatre ans, mais aussi les Coupes continentaux dans l'entretemps à chaque deux ans. Puis là, on commence à avoir des autres tournois qui commencent à venir au monde. Donc, écoute, pour moi, les quatre nations, c'est un avant-goût pour une vraie Coupe du Monde du hockey. Puis je pense que c'est ça le but. Donc, le niveau d'excitation, écoute. Ouais, c'est ça. Mais les Olympiques, c'est un peu garanti, là. C'est même pas la Ligue nationale. C'est le problème, cette fois-ci, c'est les Italiens, malheureusement, qui ont un processus de construction quasiment semblable à celui du Québec. Donc, il semble avoir
des infrastructures qui seraient
problématiques. C'est ça, exactement. Donc, on verra si l'aréna va être construit à temps. On me dit, selon mes sources, que ça va être fait. Mais, encore une fois, en étant italien et en ayant beaucoup d'amis qui travaillent dans le fonctionnariat là-bas, rien n'est garanti. Donc, ça semble être plus ça le problème. Mais en termes d'excitation pour ce tournoi, écoute, premièrement, juste personnellement, tu sais, moi, j'ai grandi mes étés en Nouvelle-Écosse, à Halifax. À peu près 5 minutes de Brad Marchand, on était les deux à Hammond's Plains. Cole Harbour était à peu près une quinzaine de minutes avec Sidney Crosby, avec Nathan MacKinnon. Donc, ça, c'était mon enfant. J'ai connu ce monde-là. Et donc, de toutes les voir dans une équipe, pour moi, personnellement, c'est un full circle.
C'est spécial, mais oui.
Pour moi, là, c'est spécial pour voir ça pour l'équipe Canada parce que c'est vraiment c'est quelque chose de proche. Ceci étant dit, les Américains, je pense que quand tu regardes les Américains, sont élites partout.
Ah oui,
partout, 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 partout.
Juste avant de rentrer dans les équipes, Marco, je voulais, selon toi, c'est quoi les quatre nations? Est-ce que c'est, on entend la Ligue nationale dire qu'on veut que ce soit pour cette année un remplacement du match des étoiles. Est-ce que c'est une préparation pour justement les Jeux olympiques, la Coupe du monde? On a vu certains joueurs délaisser un petit peu leur sélection. Là, on peut penser à Alex Pietrangelo avec le Canada. Est-ce que les joueurs ils prennent ça au sérieux? Et si, dans le cas de Pietrangelo, est-ce que tu penses que ça va affecter sa potentielle sélection dans une prochaine édition canadienne?
Ben, Pietrangelo était repêché en 2008. Donc, il avait 90. Ça veut dire que l'année prochaine, il va avoir 36 ans.
C'est dans les vétérans du groupe.
C'est ça que j'allais dire. C'est comme, je comprends pas qu'est-ce que le Canada prépare ici, là, mais...
Donc, Pietrangelo, c'est ça, sa situation particulière, puisqu'il est un vétéran là, de plusieurs saisons dans la Ligue nationale.
Mais c'est ça. Donc, tu sais, tu regardes dans la Ligue nationale, tu as des Noah Dobson qui peuvent faire partie de la conversation. Devant une Taves pourrait même faire partie de la conversation. Il y a plusieurs jeunes qui commencent vraiment à monter, qui pourraient faire partie de la conversation avec la défense. Je la trouve, c'est un peu, je dirais pas vieille, mais c'est pas nécessairement le type de défense que tu vas être capable d'apporter avec toi dans les tournois à venir. Et c'est dans ce contexte-ci, c'est un peu ça ma question. Et que je comprends Pietrangelo. T'as Shea Theodore qui est là, Pietrangelo, il y a une chimie. Tu sais, c'est normal. Mais veux pas, le plus que ça l'avance, le moins que ce qu'un Drew Doughty ou un Pietrangelo vont figurer parmi les meilleurs défenseurs du Canada. Donc, c'est pour ça, tu sais, quand on regarde des choses comme ça, ça me dérange pas de voir un Pietrangelo laisser sa place à quelqu'un d'autre. Je trouve juste drôle que ça va à un gars qui a été repêché deux rangs avant lui qui a le même âge. C'est ça qui me fait un peu rire. Mais en même temps, écoute, ce que j'aime le plus de tout ça, c'est que pour une fois, le Canada n'a pas l'air d'être la meilleure équipe sur papier.
Exactement.
Puis c'est ça qui va être le plus le fun pour moi. Le match du 15 février à 8 heures au Centre Bell, je sais que le monde parlait beaucoup des frais de billets, là, mais ouf!
Ah, je vais terminer avec toi tantôt sur les frais de billets, justement. Tu parles des favoris, là. Tout à l'heure, j'irai un petit peu plus en détail avec les formations de mon côté. Mais je serais curieux d'avoir ton classement final des équipes 4-3-2-1. Là, tu parlais du match Canada-États-Unis. C'est sûr que on va prendre les deux équipes qui ont eu les meilleures statistiques dans le tournoi, si on veut, préliminaire. Et ces deux équipes-là vont aller en finale. Donc, pas de niaisage, pas de demi-finale. Pas rien de
ça. Non, c'est ça.
Selon toi, qui tu penses va terminer 4, 3, 2, 1 et pourquoi? Là?
Finlande, Suède, Canada, États-Unis.
OK, donc une finale Canada, États-Unis, OTD, Garden, ça va être extraordinaire.
Malade. Ça va être vraiment malade. Puis je sais que le tir à Montréal, on parle tout le temps de Boston. Mais si j'ai allé à un autre amphithéâtre qui va comprendre la gravité de la situation, c'est le TD Garden. Donc, écoute, pour moi, c'est très intéressant. Je trouve ça vraiment le fun en termes de la qualité de hockey qu'on va être capable de voir. Et encore une fois, malheureusement, là, avec la situation de Sidney Crosby, ça va peut-être pas être best on best. Mais en même temps, tu sais, si le remplaçant pour Crosby, c'est Mark Scheifele, ben Mark Scheifele,
il va bien.
Si je me trompe, c'est le meilleur buteur canadien dans la Ligue nationale en ce moment. Donc,
je pense que oui, oui.
C'est ça, là. Fait que, tu sais, il connaît une très forte saison. Puis pour moi, je trouve ça intéressant de peut-être le voir là parce que selon moi, il aurait dû figurer parmi les 13 attaquants dès le début.
Ouais. Donc, qu'est-ce que selon toi donnerait l'avantage aux Américains par rapport à l'équipe canadienne malgré le fait qu'on.
Leur gardien.
Ça s'arrête chaque là pour toi.
Chaque des trois gardiens des États-Unis pourrait être le gardien numéro un du Canada.
Ah, absolument.
Sans même un débat. L'autre affaire que je dirais, c'est qu'en termes de buteurs naturels, ils en ont plus du côté des Américains que le Canada. Le Canada, c'est plutôt bâti une équipe. Honnêtement, on va se dire.
Des gars de rôle un peu, là, qui peuvent faire un peu.
Ils se sont bâti une équipe à la Tampa Bay / la Floride, puis ça se voit avec toutes les. Là, je pense que les deux équipes confondues ensemble ont genre 7 joueurs dans l'équipe. Donc, tu sais, c'est vraiment basé sur les équipes gagnantes antécédentes. Tandis que les Américains, outre, tu sais, un Logan Thompson ou un Cole Caulfield, sont vraiment allés baser sur les meilleurs avec peut-être deux ou trois joueurs de quatrième trio. Le Canada, un peu comme on a vu avec Hockey Canada, avec le championnat du monde junior, je pense qu'ils sont en train de le faire un peu cute avec leur sélection. Puis je sais que le monde va débattre ceci, spécialement si le Canada ne gagne pas.
On a laissé beaucoup de joueurs de talent. Puis ça a été, disons que la circonstance a été un peu dommageable pour le Canada. Après la sélection, on a eu beaucoup de joueurs qui ont eu des passages vraiment au froid. On peut penser à Sam Bennett, même Konechny, ça a été un petit peu moins réussi de son côté.
Konechny, il joue avec personne, malheureusement.
C'est sûr, il faut regarder le contexte aussi, mais on a eu une panoplie de joueurs qui se sont mis à bien produire. Et c'est drôle que tu aies fait un petit lapsus avec Logan Thompson tout à l'heure. Je voudrais t'entendre là-dessus sur Thompson. On a entendu dans les derniers jours que il y aurait certains dirigeants d'équipe Canada, dont Peter DeBoer et Bruce Cassidy, qui sont deux adjoints à l'entraîneur John Cooper, qui auraient milité pour que Logan Thompson, qui est celui qui a les meilleures statistiques au Canada chez les gardiens, ne soit pas dans cette équipe-là. Comment tu trouves ça qu'on laisse de côté celui qui aurait probablement dû être le numéro un?
Ouais, c'est certain que Thompson avec les Capitals de Washington, en termes de gardien, c'est un peu drôle. Je comprends Aiden Hill, mais en ce moment, présentement, Jordan Binnington et Samuel Montembeau...
C'est pas une très bonne passe.
C'est ça. Puis écoute, Samuel Montembeau, beaucoup plus que Binnington, joue dans une situation quasi impossible avec le Canadien de Montréal en termes de la défensive, puis ce qui doit faire face sur une base quotidienne en termes de tirs dangereux, etc. Mais ce que je trouve malheureux dans un tel tournoi, c'est de ne pas être capable de dire « on a fait une erreur, on va faire un petit changement ». Parce que dans la Coupe du monde, exemple, au soccer, tu vas déclarer ton équipe deux ou trois semaines avant le tournoi. Pas trois mois. Tu sais, puis je comprends d'essayer de build la hype, je le comprends. Mais malheureusement, je pense que la Ligue nationale, dans ce contexte-ci, a raté tout leur coup. L'autre affaire que j'aimerais apporter, les ventes de billets ne vont pas bien et on se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Tu as Cole Caulfield qui aurait pu être là. Tu as Nick Suzuki qui aurait pu être là. Je veux pas faire des calls marketing pour aller choisir des joueurs. Mais quand ça frôle tes derniers petits choix, puis tu te demandes, tu es dans la Ligue nationale, puis tu te demandes
pourquoi,
comment on peut aller chercher de l'engouement ici, là? Comment on peut aller chercher un engagement des partisans?
Mais est-ce qu'on sait vraiment, puis je vais terminer avec toi là-dessus, est-ce qu'on sait à quel point on s'est tiré dans le pied en faisant peu de marketing, on va se le dire. Là. La manière que les joueurs ont été annoncés dans chacune des nations, ça aurait pu être un petit peu mieux fait. On en entend parler dans certains endroits, mais on semble avoir mis peu de montants et de sources pour justement mousser l'événement. Et aussi le prix des billets qui est astronomique. Là, on va se le dire, c'est beaucoup plus cher qu'une partie de la Ligue nationale standard. Ouais. Les gens vont peut-être être moins tentés de payer le gros prix pour voir États-Unis, Finlande à Montréal.
Oui, le problème, c'est malheureusement avec les billets, c'est le pricing dynamique de Ticketmaster et de Evenco. Qu'est-ce qui se passe avec cette situation-là? C'est toujours le cas. Les billets n'étaient pas autant chers au prix de base, mais ils ont tous été achetés. Et là, les revendeurs essaient d'en prendre avantage vu que, tu sais, c'est Canada-États-Unis. Mais exemple, les prix pour aller regarder la Finlande contre le Canada ne sont nullement proches des prix qu'on a vus pour Canada-États-Unis. Donc, tu sais, c'est un peu ça. Moi, c'est plutôt la quantité de billets qui ne se vend pas. Puis l'affaire qui fait plus peur, c'est qu'à Montréal, c'est moyen, mais à Boston, c'est pire. Et je me dis, Boston, c'est la finale et c'est pire. Et donc, pour moi, je pense que c'est malheureux qu'il n'y ait pas assez de marketing qui a été mis là-dessus.
Ouais.
Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de vraies conséquences et que ce soit juste un tournoi friendly, tu sais, il n'y a pas vraiment de
effectivement, il aurait pu avoir un avantage pour l'équipe gagnante pour les prochains Jeux olympiques. C'est un bon point.
Ou la Coupe du monde à venir dans 4 ans. Tu sais, c'est
ouais, bon point.
Ça rentre là-dedans. L'autre affaire que je trouve un peu moins, comme moins le fun, c'est la structure du tournoi. Si ça l'aurait pu être comme la Coupe Memorial, où ce que tu as trois équipes après les rondes préliminaires, dont une équipe qui passe directement en finale et un...
Tout à fait.
Tu aurais encore plus d'opportunités pour essayer de créer de l'avantage.
J'y avais pas pensé, mais 100%.
Aller d'une round robin directement en finale, c'est comme...
ça laisse les équipes qui se sont enfargées dans... Tu perds un match, t'es pratiquement, tes chances sont pratiquement terminées pour le restant.
Donc, si tu perds un match en temps réglementaire, c'est fini.
C'est un très bon point. Le modèle était là, le modèle des quatre équipes était là à la Coupe Memorial. On pouvait faire un copier-coller. On l'a pas fait, c'est dommage.
Le pire dans tout ça, c'est que nous, chez RG Media, on a passé et Marty Walsh, le directeur des joueurs, et Bill Daly, le vice-président de la Ligue nationale. Et les deux semblaient nullement préoccupés des prix des billets. Ils se disaient que probablement après le premier match, on va voir une poussée pour ces derniers matchs à Montréal et à Boston, où ce que l'engouement va venir et on va voir la qualité sur glace. J'en doute encore.
C'est possible, c'est dommage qu'on se rende jusqu'à là pour un événement qui est aussi important. Et comme tu l'as dit en levée de rideau dans l'épisode, on attendait ça depuis si longtemps et que ce soit un petit peu botché, c'est un petit peu décevant. Je rappelle aux gens que Marco il est allé d'une prédiction de la victoire américaine, mais dans tous les cas, ça ferait une finale vraiment à s'en lécher les doigts. Là,
ça serait la folie totale.
Exactement. Donc là, si on se rend jusque-là, c'est sûr que j'imagine qu'on pourrait remplir l'amphithéâtre. Marco, je te remercie beaucoup pour ta participation. De mon côté, je vais continuer un petit peu avec je vais énumérer les équipes, mais j'encourage les gens à te lire sur ta plateforme X et par l'entremise de RG Media, justement. Là, vous sortez une tonne de contenu exclusif de très, très grande qualité. Récemment, on a eu l'entrevue avec Ivan Demidov. Il y a eu aussi votre histoire sur Noah Dobson. Donc, beaucoup, beaucoup de choses. Ça vaut la peine de s'y attarder. Tu t'en viens de plus en plus reconnu dans le milieu et je t'en félicite. Puis, je suis très, très fier de t'avoir à l'épisode. Alors, un gros merci, Marco, d'avoir été avec nous pour parler du 4 Nations.
Toujours un plaisir, man. À la prochaine.
Merci, Marco. À la prochaine. Alors, je continue de mon côté avec l'énumération des quatre équipes qui font partie justement de ce quatre nations. Alors, je vous présente maintenant l'équipe canadienne qui... les lignes que je vous présente pour ceux qui sont sur YouTube, c'est une suggestion du site NHL.com, donc rien n'est coulé dans le béton, ce n'est qu'une proposition. Mais on retrouve quand même une force de frappe certaine au niveau du top 6 offensif. Là, de mon côté, je verrais plus un Crosby ou un McKinnon sur le centre de la deuxième ligne avec un Reinhart ou un Marner sur la première. Mais on a ce qu'il faut au niveau de cette attaque pour pouvoir déranger les autres équipes adverses. On a plusieurs joueurs qui sont capables d'effectuer des rôles spécifiques, dont Brendan Eagle et Mark Stone sur une troisième ligne, alors qu'on a des joueurs difficiles à affronter sur une quatrième ligne avec des Travis Konecny, des Sam Bennett, des Anthony Cirelli aussi. Donc, plusieurs joueurs qui sont vraiment de qualité, mais comme on en parlait tout à l'heure avec Marco, possiblement une moins grosse force de frappe du côté de l'attaque canadienne. Si on ne le voit pas sur cette image, Seth Jarvis, qui connaît une très, très bonne séquence, serait le 13e attaquant. Mais comme il va vraiment bien, que c'est un tournoi très court, ça pourrait être intéressant de l'insérer parmi les actifs, les partants. Au niveau de la défensive, donc, très équilibré. Comme mentionné, Alex Pietrangelo ne sera pas là. C'est Drew Doughty qui le remplace. C'est quand même une bonne présence vétérane parmi ce groupe où, disons, le plus expérimenté est Colton Parayko. On a des gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Là, si on regarde les quatre premiers défenseurs, ce sont des gagnants de la Coupe Stanley. Et dans l'alignement au complet, c'est ce qui représente beaucoup cette formation-là. On a des gagnants. Donc, j'ai l'impression qu'on a voulu prendre des joueurs qui savent comment gagner, surtout pour un aussi court tournoi. On a des défenseurs à caractère très offensif, donc Cale Makar, Shea Theodore, Josh Morrissey, qui sont bons dans les deux sens de la patinoire, mais qui peuvent être une menace constante au niveau offensif. Et on peut les jumeler à des partenaires qui sont très efficaces, donc Devin Toews et Cale Makar, qui ont une chimie naturelle ensemble au Colorado. Colton Parayko, avec son physique imposant, et Travis Sanheim qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Donc, une défensive qui est bien équilibrée. Au niveau de la position de gardien de but, ben, comme on a parlé avec Marco, ça a été probablement la grosse faiblesse de cette équipe. Pourtant, là, on place Aiden Neal comme le partant. Est-ce que ce sera vraiment lui? Là, comme mentionné, on a Montembeau et Bennington aussi. Possiblement qu'on commencerait avec Hill, puisque c'est celui qui est sur la meilleure tangente et séquence présentement. Donc, une formation canadienne qui semble avoir une faiblesse au niveau de la position de gardien de but. On se transpose maintenant sur l'équipe américaine qui sont les favoris de Marco. Et de plusieurs gens. Là, lorsqu'on regarde cette équipe-là, ça semble être la plus équilibrée du tournoi. Donc, encore une fois, pour ceux qui sont sur YouTube, voici la formation projetée, les lignes projetées par le site de la LNH. Donc, une attaque extrêmement dominante, talentueuse, explosive. Avec du caractère, là, des Brady Tkachuk, des Matthew Tkachuk, des JT Miller, ce ne sont pas des joueurs qui sont faciles à affronter. On a des joueurs qui peuvent marquer à tout moment avec les Matthews, Connor, Jack Hughes, Jack Eichel qui est bon dans les deux sens de la patinoire, Dylan Larkin aussi, Jake Guentzel qui a passé par beaucoup, beaucoup d'étapes au cours de sa carrière. Par contre, si on compare cette attaque à celle du Canada, possiblement que c'est au niveau des joueurs de soutien qu'on a une faiblesse par rapport à l'équipe canadienne. On retrouve Chris Kreider qui serait possiblement le 13e attaquant. Mais lorsqu'on regarde une quatrième ligne, Matt Boldy, Vincent Trocheck, Brock Nelson, on est un petit peu moins bien équipé pour contrer les McDavid, les McKinnon, les Crosby. Donc, on a des joueurs qui pourront fournir offensivement. Est-ce que ce sont des spécialistes défensifs? Non. Est-ce que ce sont des joueurs qui se débrouillent très bien dans les deux sens de la patinoire? Oui. Brock Nelson, je pense qu'il est un joueur sous-estimé. Matt Boldy, qui est encore un jeune joueur, va se développer dans ce rôle-là. Mais c'est une attaque qui définitivement pourra marquer beaucoup de buts. Au niveau de la défensive, c'est similaire à ce qui se passe au niveau du Canada. Là, il faudra, au moment que l'épisode est enregistré, petite inquiétude au niveau de Quinn Hughes, qui est incertain pour le tournoi. Sa présence serait extrêmement importante. Mais on a des similitudes par rapport à la défensive canadienne, c'est-à-dire on a des défenseurs qui peuvent être extrêmement dangereux en zone offensive, avec les Quinn Hughes, les Adam Fox, les Zach Werenski. On a aussi des défenseurs qui excellent dans les deux sens de la patinoire. Charlie McAvoy, Jacob Slavin. Brock Faber n'est pas encore à leur niveau, mais il s'y approche. On a un Noah Hannifin aussi qui est un vétéran et qui a gagné par le passé, qui pourrait s'insérer dans cette brigade-là. C'est surtout au niveau des gardiens de but. Là. Comme Marco a dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, les trois gardiens de but américains pourraient être les premiers. Le premier gardien canadien. Donc, ici, on retrouve Connor Hellebuyck comme le partant. On a aussi Jake Oettinger et Jeremy Swayman des Stars et des Bruins comme possibles remplaçants. Mais avec un Connor Hellebuyck qui va aussi bien avec les Jets, je pense qu'ils vont être en mesure de transposer ce momentum-là vers la formation américaine dans un tournoi aussi court, c'est un net avantage. Donc, les Américains sont complets, pas de faiblesse du tout dans cette formation-là qui est très, très talentueuse. L'équipe suédoise, potentiellement un léger manque au niveau de la position de centre comparé aux autres nations. Là. Au niveau du top 6, à tout le moins, là, Mika Zibanejad, Elias Pettersson restent des bons joueurs, mais on n'est pas au niveau du Canada, de la Suède et de la Finlande qui viendra tout à l'heure. On a des attaquants, par contre, qui sont très talentueux. Mais est-ce qu'on en a assez pour tenir notre bout physiquement? Là? Les Jesper Bratt, William Nylander, Lucas Raymond, Philip Forsberg, ce ne sont pas des joueurs qui ont réussi à se rendre loin dans un contexte éliminatoire. Mis à part Philip Forsberg avec les Prédateurs. Mais de manière récurrente, ce sont des petits attaquants très talentueux, mais contre des Sam Bennett, des Mark Stone, ça pour, des Konechny, ça pourrait être un petit peu plus difficile. Même la Finlande est remplie de joueurs travaillants, on le verra un petit peu plus tard. On a une troisième ligne qui est quand même vraiment, qui pourra jouer dans toutes les situations. Et Adrian Kempe, Joel Eriksson-Ek et Elias Lindholm, pour moi, sont dans les joueurs les plus importants de cette formation-là. Tout d'abord, surtout Eriksson-Ek et Lindholm, on excelle dans les deux sens de la patinoire, mais on a le physique de l'emploi. Donc, ces joueurs-là vont devoir donner le momentum pour le reste de l'attaque suédoise. Et si ces joueurs-là mènent le bal, ben les autres, ça serait peut-être un petit peu plus facile de suivre. On a des défenseurs aussi élites en Victor Hedman, en Rasmus Dahlin. On a un Erik Karlsson qui peut avoir un apport offensif très intéressant. Mais le reste de notre brigade est rempli de défenseurs qui sont très difficiles à affronter. Là. Les Mathias Ekholm, Gustav Forsling, Rasmus Andersson, même Jonas Brodin qui ne figure pas sur l'image ici. Mais on a des gros défenseurs qui sont physiques, qui excellent dans leur zone. Donc, ce ne sera pas facile de les surpasser. À la position de gardien de but, ça a été une grosse perte que celle de Jacob Markstrom des Devils qui ne participera pas au tournoi. Philippe Gustafsson du Wild est bien placé pour prendre en relève. Là. Linus Ullmark des Sénateurs aussi pourrait faire le travail, lui qui revient d'une blessure. Donc, formation suédoise très complète aussi, des petits manques à droite et à gauche, mais somme toute très talentueuse et équilibrée comme formation. On termine avec l'équipe finlandaise qui, lorsqu'on regarde rapidement leur formation projetée, ben, malheureusement pour eux, c'est l'équipe qui semble avoir... qui semble être justement au queue de ce peloton-là. Donc, on manque de profondeur et de talent élite à certains endroits. Reste que la charnière de la position de centre finlandaise est très talentueuse. On a commencé par Alexander Barkov et Sébastien Aho qui sont dans l'élite de la Ligue nationale. On a des attaquants très talentueux pour les compléter. En Mikko Rantanen, on a des joueurs qui jouent de la bonne manière avec Artuleri, Lekonen, Rupe Hintz, Anton Lundell, même Joel Armia dans un certain sens. On a des attaquants très talentueux comme Patrick Laine, Kaapo Kakko, Teuvo Teräväinen. Est-ce qu'ils vont être capables de transposer leurs principaux atouts dans un contexte de tournoi comme ça contre les meilleurs? On a des points d'interrogation de ce niveau-là, mais on manque de profondeur est certain. Teräväinen, Louis Teräinen, même Armia qui était dans les joueurs qui peuvent être un atout, mais reste que dans la majeure partie des formations étoiles, Joel Armia ne s'y trouverait pas. Même si on a quand même certains points d'interrogation en attaque, c'est surtout au niveau de la défensive que c'est problématique. Gros manque de talent dans cette brigade-là, surtout avec la perte de Miro Heiskanen. Mis à part S.A. Lindell, il n'y a personne qui peut avoir un réel impact dans un calibre comme celui-là contre les meilleures équipes adverses. Ici, on a Kevin Lankinen qui pourrait être un partant. Jussi Saros pourrait faire le travail et encore une fois, je le répète, mais dans un tournoi aussi court, un gardien qui est en possession de ses moyens, un Jussi Saros qui joue contre une défense hermétique comme derrière une équipe hermétique comme celle de la Finlande, on a un potentiel qui pourrait créer des surprises de ce côté-là. Donc, de mon côté, si j'y vais aussi avec mes prédictions pour le tournoi, j'aborde dans le même sens de Marco qu'on risque d'avoir un Finlande et Suède qui auraient les positions 4 et 3. On a une finale Canada-Américaine. Et de mon côté aussi, là, c'est au niveau de la position de gardien de but que ça risque de se jouer. Malgré que ça devrait être très serré et que le Canada a beaucoup de joueurs qui savent comment gagner. Un Connor Hellebuyck en pleine possession de ses moyens peut faire gagner je vois pas comment ils pourraient ne pas faire gagner une équipe qui est aussi talentueuse que celle des Américains cette année. Alors voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce segment avec sur la Coupe des Quatre Nations. Marco nous a bien préparé ça. On est allé en plus en profondeur de mon côté avec les alignements respectifs, mais j'espère que c'est un tournoi qui vous intéressera, surtout à cause du fait qu'on n'a pas rien eu à se mettre sous la dent au niveau hockey international de calibre LNH dans les dernières années. Alors, c'est un réel plaisir de pouvoir s'y attarder finalement, puis de retrouver les meilleurs. Et ça se trouvera à Montréal, si vous avez la chance d'aller voir un match, malgré le fait que les billets soient très dispendieux, c'est pas tout le temps qu'on peut avoir une si bonne équipe canadienne sous nos yeux. Alors, voilà. Alors, je vous remercie d'avoir été présent. Vous excuserez mes petits problèmes de gorge. Je sors d'un bon petit rhume. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Bon tournoi des Quatre Nations et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.